This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Si un jour j'ai un chat ou un enfant, je l'appellerai Gustave pour Gustave Flaubert, Gustave Moreau et Gustave Courbet.
Hello.
Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue dans LMK, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Je suis Marie-Stéphanie Servos, rédac chef de Mademoiselle, comme toujours, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et comme souvent, accompagnée d'une team de joyeux personnages.
Je crois que t'allais dire joyeux luron.
J'ai failli dire joyeux luron et je me suis dit calme-toi. On va tout de suite se calmer. Donc non joyeux personnage avec à ma droite Fanny. Ça va Fanny?
Oui. Salut Fanny.
Ça va. Un peu fatiguée mais contente d'être là. Coucou tout le monde.
Trop bien. Enfin trop bien contente d'être là. Pas trop bien d'être fatiguée bien évidemment. Vous l'avez entendu. Elle est à ma gauche. Elle s'appelle Ariane.
Oui bonjour.
Coucou Ariane.
Je suis en train de couver probablement un rhume.
Oh c'est pas vrai.
Quelque chose qui s'y rapproche.
Donc c'est pas des poussins.
Je tiens à signaler que je suis à deux pas du pôle vidéo social et tout le monde tous est éternu. Ouais. Donc je crains pour ma vie, je vais porter un masque à partir de demain.
Je pense que tu fais bien.
Ok, alors moi juste je sors d'un rhume là en fin de semaine dernière, ouais. Donc s'il vous plaît, restez loin.
Et moi j'ai pas été malade de l'hiver donc je touche du bois, là c'est incroyable ce qui m'arrive. C'est la première fois de ma vie que pendant tout un hiver je suis pas malade.
L'hiver a commencé le 21 décembre je crois.
Non mais quand il fait
temps
froid
encore.
L'hiver de pas l'hiver du calendrier, l'hiver de quand il a commencé à faire
pas
froid.
Pas l'hiver calendaire.
Voilà.
Et toi, Anthony, comment ça va? T'as l'air en forme.
Coucou, Anthony.
Eh bien, je crois que ça va bien. Ouais, je suis courbaturé, mais heureux.
Super, ok.
Oh. Eh bien, on est sur une joyeuse team de joyeux personnages, c'est bien ce que je disais. Pas forcément très en forme, mais on espère que vous allez tous aller mieux rapidement.
Oui.
Voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire.
La question de la semaine.
Et la question, voilà, voilà la question de la semaine. Hein, dans cette ambiance parfaitement joyeuse, j'avais une question d'une très haute importance à vous poser.
Tu gagnes du temps en fait, Marie-Stéphanie, t'as oublié, c'est ça? Quel roman êtes-vous?
Merci. Donc la question du jour.
Oui, la question
de cet
du
épisode.
Jour.
La question du jour. La question.
Elle gagne encore du temps.
J'ai été poursuivie par le lab, je vous dis. Bref, la question, c'est la suivante. Quel roman, alors pas quel roman êtes-vous, mais quel type de roman est votre vie? Et voilà, je suis sûre. Ouais,
pour toi, il y a une différence entre les deux formulations? Parce que pour moi, la réponse serait la même.
Parce que non, ta personnalité et ta vie ne sont pas forcément les mêmes choses, ils ne vont pas forcément dégager les mêmes choses. Parce que des fois, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie que tu n'as pas choisies.
Eh bien, vas-y, réponds à la question.
Alors, non, mais alors déjà, ouais, moi, je pense que.
Très intriguée.
Tu vois, imagine, tu dis, mais en fait, moi, je veux que. Je pense que je suis un roman d'amour, mais en fait, tu as une vie amoureuse,
tu
n'as rien.
Donc, tu n'es pas
vois.
Un roman d'amour, c'est ce que
oui,
tu
non,
veux,
mais
tu ne l'es pas.
Voilà, donc il y a entre ce que tu. Peut-être ce que tu te sens être, mais est-ce que ta vie est.
Mais ce que
est-ce que ta personnalité est le reflet de ta vie?
Bon, donc, si voilà. Ta vie devait être un roman, ce serait lequel?
Je pense que ce serait un roman. Pas. Non, en vrai. En vrai, je saurais pas comment dire, mais je pense que c'est pour l'instant plutôt un. Aventure serait un grand mot. Mais en vrai, je trouve que je fais des trucs cool et je m'amuse bien et je bouge beaucoup. Donc, est-ce que ce serait peut-être une forme de roman d'aventure? Je ne sais pas.
Un roman avec un train dans lequel le personnage parcourrait 35 heures en une
c'est
semaine.
C'est ça,
en deux semaines.
35 heures de train en deux semaines, ce qui est déjà pas mal, sachant que je suis restée en France. Hein. je suis pas allée à l'étranger. Mais peut-être, ouais, je dirais roman d'aventure, parce que j'ai quand même changé de continent quand j'avais 18 ans. Je sais pas, voilà. Bah écoute, s'il fallait choisir, ce serait ça. Voilà.
Ok, très bien. Donc, roman d'aventure pour toi. Ariane ou Anthony qui se sont inspirés? Ariane a dégainé le micro direct, donc je pense qu'elle sait.
Est-ce que tu m'as regardé? Voilà. Alors, je me suis dit, putain, c'est à moi là, va falloir dire un truc.
La pression.
J'ai eu une fulgurance là. Oh. Je vais être super chiante. Je pense que ce serait un roman parisien du 19e siècle.
Ah!
Parce que.
J'étais sûre que t'allais dire ça.
Parce que, bah, de toute façon, c'est toujours ma réponse à tout dès qu'on parle de roman.
Pourquoi parisien? Enfin, vas-y, on t'écoute.
Parce que je me dis. Ce serait un roman, une scène de la vie parisienne, tu vois. parce que j'ai grandi à Paris et que c'est le seul cadre que je connais bien en vrai, et j'ai habité nulle part ailleurs, quasiment nulle part ailleurs. Et en plus, j'ai une famille chelou.
Il y a des personnages dans ta famille.
Ouais, il y a des personnages de ouf dans ma famille. Moi, je suis là, j'essaye de gravir, pas forcément gravir les échelons, mais de construire en tout cas ma vie seule. Voilà, je sais pas. Mais de toute façon, c'est pas pour rien que j'ai étudié cette période à la fac, et j'adore les romans du 19e. Donc
tu es un roman du 19e.
Je serais un roman, Scène de la vie parisienne, 19e.
Non, j'ai failli être 19e-iste.
Bah ouais.
C'était mon but dans la vie avant.
Ah ouais, je comprends. Ouais. Ouais, je comprends.
J'adore.
Moi aussi, j'adore.
Et toi, Anthony ?
Eh bien, je serai un roman du 19e, mais peut-être pas, peut-être pas très parisien, tu vois. Justement, très en région. J'allais dire province.
Scène de la vie de province. Ouais, désolé, ça s'appelle comme ça.
Mais ouais, je serais justement, au départ, j'allais répondre à un titre, tu vois. Donc moi, je serais vraiment Madame Bovary de Flaubert, donc très normand, finalement. Même si je ne suis jamais à la Rouen de ma vie.
Tu t'ennuies dans la vie ?
Eh ben ouais. Genre, du coup, je vis que à travers les romans, ce que je m'imagine.
Ah, dans ce sens-là.
Je rêve de Paris, alors qu'en fait, j'ai pas les moyens d'y vivre, et du coup, je suis dans mon petit bled à côté. C'est comme, tu vois tout à travers une vitre, et t'as l'impression que c'est tout près, et en fait, t'es pas dedans. Et aussi, je crois que les choses qui me font le plus palpiter, c'est l'amour. Mais toujours inassouvi, ou toujours insatisfaisant. Et du coup, je suis là en train de me projeter dans des amours et des amants, et ça fonctionne jamais, et c'est insatisfaisant, et tu vis dans le désir de l'autre, et c'est totalement tragique. Mais j'espère ne pas finir comme elle.
Oui, de préférence.
Parce j'espère que le cyanure, c'est pas très goûtu.
Oui, c'est passé de mode. Hein. Oui.
Et voilà, c'est un roman sur l'ennui, quoi. Où il ne se passe rien, et voilà. Et je crois que j'ai une phrase de Madame Bovary qui est gravée dans la mémoire, même deux. Celle où, en fait, elle vit sa best life à une soirée de bal et elle mange de la glace au marasquin. J'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Elle a la cuillère entre les dents. Et du coup, t'as vraiment ce truc où elle est dans une fête qu'elle adore. Mais en fait, c'est pas son monde. Elle le ressent très fort. Donc, elle sent ce décalage. Et il y a un autre moment, c'est quand elle reçoit la lettre de rupture d'un de ses amants, qui a un prénom en R, je sais plus, Rodolphe, je crois, un truc comme ça. Et en gros, il lui dit « T'aimer, c'est un peu comme m'endormir à l'ombre d'un mancelinier. » Et je trouve ça horrible.
C'est clair.
Tu peux la redire.
Mais comme je suis giga toxique, bah c'est grave, moi.
T'aimer, c'est comme s'endormir à l'ombre.
C'est pas mot à mot, hein, je me souviens pas exactement, mais c'est « T'aimer, c'était un peu comme m'endormir à l'ombre d'un mancelinier. » Je sais pas si vous connaissez cet arbre.
C'est quoi un mancelinier ?
C'est un arbre qu'on trouve beaucoup en Martinique, en l'occurrence. Donc je suis assez étonnée qu'il y ait eu cette formule-là dans ce livre. Et du coup, je me souviens en cours de français quand j'étais plus jeune, il n'y a pas si longtemps. Et bien, la prof avait demandé « C'est quoi un mancelinier ?» Je Bah moi, je sais.
Moi, je sais, madame.
Oh là là.
En Martinique, c'est des arbres qu'on entoure justement d'une ceinture rouge, en fait. Un coup de pinceau rouge pour faire comprendre aux gens que c'est un arbre toxique, en fait. Et donc, lorsqu'il pleut, si vous êtes sous un mancelinier, ben vous pouvez être brûlé parce que les gouttes d'eau qui traversent le feuillage peuvent vous causer des irritations très fortes sur la peau. C'est pour ça que c'est hyper grave de s'endormir sous un mancelinier. Donc normalement, on ne doit pas s'abriter sous un mancelinier. Donc c'est pour ça qu'on les signale sur les plages. Et donc quand Rodolphe lui écrit ça, je crois que c'est Rodolphe, lui écrit ça, d'ailleurs je ne sais plus si elle comprend tout de suite le sens de cette formule, mais c'était vraiment grave.
Wow.
Tu nous donnes envie de relire Madame Bovary.
Mais Madame Bovary, c'est l'un de mes romans préférés.
Oui. Je n'ai jamais lu.
Ah,
c'est très grave.
Je crois que je l'ai chez moi.
Franchement, il est sublime. Il est en très exemplaire.
Il y a très peu de temps de relire les classiques.
Oui, oui,
justement.
Oui.
Eh bien, peut-être, Ariane, peux-tu l'ajouter à ta liste?
Mais il est dans ma liste, hein, depuis longtemps, mais je sais pas pourquoi, je sais pas.
Non, mais Flaubert écrit divinement bien, je trouve que c'est l'un des plus grands.
Il s'appelle bien Rodolphe.
Après, est-ce que t'as aimé tout de suite quand t'as lu Flaubert?
Oui.
Tout de suite.
À l'époque, oui. Ça m'avait dévasté. Et justement, je me suis dit, waouh, il se passe tellement de trucs dans sa vie. Et des années plus tard, je l'ai relu. Donc, il n'y a pas si longtemps. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment un roman sur rien. Et à l'époque, quand on nous l'enseignait comme étant un roman sur rien, ce que revendiquait Flaubert en disant, oui, j'ai fait un truc par rapport à un fait divers vraiment anecdotique, eh bien, avec du recul, je me rends compte à quel point, ouais, il ne se passe rien dans sa vie, elle se la romance toute seule, quoi. Et sur TikTok, il y a plein de gens qui disent, oui, il faut romantiser sa vie et tout. Et ça me fait beaucoup rire parce que vraiment, je crois que c'est ce que je faisais inconsciemment pendant très longtemps.
Tu continues pas de le faire un peu?
Bah si, je pense que je continue de le faire, mais ça autodivertit.
Mais un peu, mais consciemment déjà.
Ça dépend de ce que t'entends par romantiser ta vie. Enfin, parce que oui, je pense qu'en effet, tout le monde le fait d'une certaine manière, mais Dans quelle mesure tu le faisais ou tu
Je crois qu'il y a des moments
où
je me vois à la troisième personne où en fait je suis à moitié endormie dans le RER et puis je regarde par la fenêtre et je me dis waouh, on dirait une scène de film français pourri.
J'adore, mais c'est super, mais il faut faire ça.
Mais ça me frappe parfois où je me dis ouais, mais Anthony, mais en fait arrête quoi.
Mais tant que t'es pas délusionnel et que tu t'imagines une vie que tu n'as vraiment pas et que tu crois vraiment y être, tant que ça te fait pas du mal sur le long terme, bien ça sûr. Va.
Ça me fait pas du mal, mais Madame Bovary finit mal. Hein. Donc,
oui, on a dit pas le cyanure.
Non, mais bien sûr, mais on dit pas d'être Madame Bovary. Mais
non, mais en fait, elle se regarde vivre plus qu'elle ne vit. Et aussi, je pense qu'il y a un truc où il y a plein de moments où en fait, je crois que je vais trop loin dans ma vie juste parce que, enfin, en amour surtout, parce que j'ai des soucis, ouais. Où je me dis ouais en fait il mérite pas et puis je passe à autre chose et du coup je m'emporte et ouais je suis giga toxique.
Moi et toi Marie-Stéphanie,
j'ai l'impression qu'on est sur le divan du psy là, c'est trop intéressant.
Alors, bah, comme vous, chaque épisode
vos
de l'MK
réponses,
hein.
C'était, ouais c'est clair, vos réponses étaient toutes hyper intéressantes. En fait moi j'ai envie de dire que ça dépend des périodes de ma vie. Je réfléchis, il n'y a pas un type de livre ou d'histoire, enfin de roman auquel je peux associer ma vie, parce que j'ai vraiment l'impression que la personne que je suis aujourd'hui n'est pas la même qu'elle était, je parle de moi à la troisième personne du coup aussi, il y a ne serait-ce qu'il y a 7 ans.
Tu peux être un roman d'aventure aussi. Regarde, dans Le Silence des Anneaux, quand ils bougent dans Le Hobbit, ils ne sont pas le même personnage au début, à la fin. Ils ont bougé dans leur vie, donc ça, c'est un roman
d'aventure. Je ne connais pas Le Seigneur des Anneaux.
Moi non plus.
Jamais lu, jamais vu, vraiment.
Oh, mais je te dis, c'est ça, dans les romans d'aventure, mais, le personnage...
Une épopée, quoi.
Voilà, tu es une
je
ne
sais pas si c'est une épopée. Je ne dirais pas que c'est une épopée. Je dirais plus que c'est une quête de soi, wow. Au fond. Alors, je ne vais pas jusque dans les livres ou romans de développement personnel, même si j'en ai beaucoup lu. Donc, je ne sais pas s'il y a un type de livre ou pas, de roman ou pas, dans lequel je puisse situer ma vie. Je pense que c'est différentes phases, mais ça va par la quête de soi, la quête de ses souvenirs aussi, et de rassembler un petit peu tout le puzzle de cette histoire qui n'est pas si vieille que ça, parce que je ne suis pas si vieille que ça non plus. mais voilà, à travers d'où je viens, par où je suis passée, où je suis et où je vais. Et peut-être quelque chose à la frontière entre la psycho et la philo, j'en sais rien, peut-être. Je sais pas. Donc, j'ai pas de réponse spécifique.
On a vécu le Covid, donc on est un peu tous déjà un roman de science-fiction aussi, parce que le fait d'avoir été confiné et tout ça, tu vois ça normalement que dans les films d'anticipation ou de science-fiction. Donc voilà aussi un petit.
Mais tu vois, justement, ça veut dire que peut-être à un instant T, on a été dans ce roman de science-fiction, mais aujourd'hui, on est encore ailleurs. Donc, et je trouve ça cool en même temps de me dire, je sais pas, justement, demain. Quelle sera la suite de ce roman composé de plusieurs types d'histoires ?
Un roman inclassable.
Un roman inclassable, peut-être.
Oh là là.
Un casse-tête de bibliothécaire.
Mais en tout cas, pas
catégorie
quelque chose... pas dans la science-fiction, pas dans la romance, pas dans... Enfin, quelque chose de très terre-à-terre, quelque chose de très dans la vie, tu vois.
Un roman d'Annie Arnaud.
Ah, c'est ce que non mais c'est con mais c'est ce que j'allais dire.
Tu peux
alors
dire ça,
je
un roman d'Annie Arnaud.
Ouais. Et en vrai ma vie est bien différente de celle d'Annie Arnaud, elle a été aussi mais en un certain sens dans son ancrage dans la réalité, peut-être que ce serait ça. En tout cas, ce style qu'elle a développé.
Un roman initiatique, plutôt contemporain, très très terre à terre, OK.
Voilà. You've got the pitch.
Yeah. OK.
Good. Est-ce que vous avez des commentaires, les amis ?
Alors, moi, j'ai un commentaire de Pauline Vanille sur Instagram qui me
dit... Salut Pauline.
Salut Fanny. Alors, j'adore ce commentaire. J'ai vraiment été trop contente en le lisant. Je suis en train d'écouter le dernier épisode de LMK et je suis super contente de vous retrouver. Donc, notre épisode de rentrée de la semaine dernière. C'est un message un peu à contre-temps. Je suis aussi auditrice de tes podcasts. Et la première fois que je t'ai entendue dans LMK, je me suis dit « Mais c'est mon Marvel Universe !» Je voulais aussi te remercier pour ton kiff sur le bugeot parce que ça m'a fait reprendre et pour une fois, je n'ai pas lâché depuis. Chaque fois que je vous écoute, j'écris dedans mon kiff de la semaine et ça me fait trop du bien. J'adore cette idée. Merci aussi pour tes podcasts géniaux. Nanana, voilà, là, voilà, là, voilà, elle me parle de ça, donc vraiment. Et donc, elle finit par « Merci beaucoup d'exister. Oh, » ça, c'est incroyable. « Et de faire tout ce que tu fais. Et désolée pour ce beaucoup trop long message. Très bonne journée à toi. » Donc, bah, merci beaucoup, Pauline. J'ai adoré l'expression de Marvel Universe à elle parce que je pense effectivement il y a peut-être des gens, d'autres personnes qui peut-être écoutaient les deux podcasts et qui se sont dit « Mais hein ?» Mais c'est Fanny de Passion Médiéviste. Mais elle va parler de quoi? De pas de Moyen-Âge, voilà. Enfin, une
de
fois.
Surf.
De surf.
De ping-pong.
Donc merci beaucoup Pauline pour ce très très gentil commentaire.
Trop chou, trop sympa. Ariane.
J'en ai pas.
Ah, ouais, bah, c'est simple au moins.
Je voulais vous le dire. Ouais. J'en cherche.
Mais envoyez des commentaires à Ariane, la pauvre.
Lâchez vos coms.
J'en ai un, en si tout. Vous voulez.
Quoique un seul.
Oui. Un seul, je crois qu'il a dégoûté tout le monde. En plus, c'est un commentaire très nuancé qui me fait redescendre, c'est très bien. C'est un commentaire de Marine qui a eu très raison de me l'envoyer, hein, donc je la remercie chaleureusement, qui m'écrit, et je cite, « Hello Anthony, j'ai écouté le dernier LMK et tu m'as fait vivre des montagnes russes. Et oui, ravi que tu partages tes infos justes sur la nutrition. Par contre, je suis redescendu quand tu as parlé de notre ami Glucose Revolution, qui raconte des âneries basées sur ses croyances et favorise les TCA et l'intox par ses âneries. Je trouve qu'il faut plus informer sa nutrition, mais inviter des vrais pros de santé dont c'est le métier, s'il vous plaît. J'ai plein de collègues en région parisienne, si vous voulez, une reco. Voilà. Et donc, merci beaucoup Marine, effectivement. Je sais plus ce que je dis dans l'épisode exactement, mais je crois que je dis que j'ai pas lu son livre et que je voulais bien le lire et qu'il me semblait que ce qu'elle disait, c'était voici l'ordre d'aliments que je vous recommande.
Oui, voilà. T'en parlais quoi à ce sujet-là.
Mais justement, il me semblait que... Il me semblait bien qu'elle n'était pas nutritionniste ni diététicienne, ni et que en fait elle avait plutôt compilé plein de recherches machin. Et donc bref, j'ai pas lu le livre, donc je voulais pas trop m'avancer. Je crois que j'ai tenté de préciser un maximum que j'étais pas médecin ni nutritionniste, voilà. Et mais en tout cas, oui, c'est vrai. Et justement, je me faisais la réflexion dernièrement que je parlais trop de nourriture et trop de nutrition. C'est un gros travers que j'ai en tant que fils de nutritionniste. Et aussi, je mentalise beaucoup trop la nourriture. Hein. J'ai moi-même quelques TCA et du coup, il faut que je me calme là-dessus parce que je trigger personne. Donc, je vais me calmer sur les conseils nutrition. Je suis un peu trop entouré de personnes orthorexiques, donc faut que.
Mais tu peux continuer
ça.
À nous donner des conseils de bonnes recettes, de choses bonnes.
Oui, je vais juste donner des recettes, voilà, qui sont aussi sur mademoiselle.com. Voilà, c'est super. Voilà, c'était le petit commentaire. Donc, petit disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin. Tout ce que je raconte, c'est d'apprendre avec une pincée de sel. Ou de sucre. Sans mauvais jeu de mots.
Comme vous voulez.
Et toi, Marie-Stéphanie, est-ce que tu as un commentaire?
Alors oui, que j'ai un peu galéré à retrouver, je suis ravie de l'avoir retrouvé. C'est un commentaire de Jeanne, il m'a écrit il y a deux jours, pour me dire « Hello Marie-Stéphanie, je t'envoie ce petit message à la suite du dernier LMK. Déjà, merci d'avoir repris le podcast après les débats successifs. Mon jeudi est toujours meilleur avec un LMK.
Mmh. »
Trop sympa. Merci, Jeanne. « Je suis allée voir sur le site de Fleurus pour voir la collection « Petit garçon ». Vous vous en souvenez?
Ah
yes. Tu te souviens pas?
Petit garçon, petit Marcel et son camion poubelle.
Voilà, le camion poubelle de Marcel. Elle met « Mais c'est hallucinant !» avec trois points d'interrogation. D'une part, il n'y a pas d'équivalent petite fille, mais en plus, ce qui est proposé pour cet âge avec un personnage présentant des traits plus féminins, c'est Petite Licorne. Et Petite Licorne n'a pas le droit à des gros engins de Formule 1, mais elle va sur le pot, va manger, découvre ses émotions. C'est exaspérant. Plein de points d'interrogation. Sinon, chez Fleurus, il y a aussi Princesse Parfaite, où Zoé découvre la coquetterie, est trop bavarde, est jalouse et gourmande. Je n'ai pas... d'enfants autour de moi, je ne pensais pas que c'était encore possible d'avoir des livres qui maintiennent les stéréotypes de genre. Je me dis que ce serait intéressant d'interpeller Fleurus là-dessus. Alors, Jeanne, je vois que en effet, la collection des petits garçons t'a interpellée également. Et écoute, je sais pas quoi dire parce qu'en réalité, dans l'édition enfant, il y a quand même encore énormément de productions qui mettent en avant des stéréotypes de genre. Les livres qui essayent d'avoir une approche moins genrée et moins sexiste sont quand même peu nombreux. Il y en a, On peut en citer quelques-uns. Il y en a notamment qui essayent de lutter contre le sexisme, le patriarcat. Et je pense au livre qui a été publié par Tiffany Cooper qui s'appelle Patatouille. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Vous en avez parlé.
J'en avais parlé. Ouais. C'est un livre, il y en a deux, je crois. Et c'est un Patatouille qui est un personnage un peu fou que seul le personnage principal, qui est un petit garçon, voit. Et en fait, il représente le patriarcat. Donc, il va dire à ce personnage, au petit garçon, oh non, ne parle pas, ne joue pas avec les filles c'est pas bien. Et donc, petit à petit, on voit que le petit garçon va essayer de déconstruire un peu tout ça. Donc voilà, il existe, j'en cite qu'un parmi d'autres, il existe aussi des ouvrages pour enfants qui sont un petit peu moins déséquilibré en termes de représentation et de rôle genré. Moi, ma fille, elle regarde Peppa Pig, par exemple. Elle lit Peppa Pig.
Qui a un énorme succès, Peppa
Pig. Qui a un énorme succès. Et en fait, j'essaie de prêter attention à ça. J'essaie de voir un petit peu le rôle qu'ont le papa, la maman, parce que ça reste quand même une famille très hétéronormée. Mais c'est plutôt OK de ce côté-là. Enfin, on voit que la mère, elle travaille, que le père s'occupe des enfants. Enfin, je veux dire que c'est pas... comme dans d'autres productions que je ne citerai pas, que c'est pas aussi genré. Donc voilà, après c'est vrai que le niveau des petits garçons, alors je leur crache pas complètement dessus, hein, pour le coup je leur crache pas du tout dessus même, c'était pas du tout mon objectif, je tiens à le préciser, d'autant que vraiment, ma fille en lit quoi, et je peux pas l'empêcher, je peux pas lui dire non, je te les retire des mains alors qu'elle les adore. L'idée c'est derrière de peut-être compenser avec d'autres choses, d'autres lectures. Mais c'est vrai que voilà, si on devait peut-être interpeller Fleurus là-dessus, ce serait pour leur donner peut-être une... C'est pas un conseil, c'est une suggestion, mais effectivement de peut-être élargir un peu plus ce qui se fait côté personnage féminin. Parce que voilà, Zoé découvre la coquetterie, est trop bavarde et jalouse et gourmande. C'est vrai que c'est quand même... essentialiser à l'extrême le rôle de enfin les traits féminins, et je suis pas sûre que chez les enfants ce soit une excellente idée de faire ça, parce que non, enfin une fille n'est pas forcément coquette, bavarde, jalouse ou gourmande, et encore moins à l'âge auquel les enfants lisent.
Et elle peut aimer les camions.
Et elle peut aimer les camions, la preuve c'est que ma fille adore les camions, et en vrai je pense que si Zoé conduisait un tramway, ma fille, elle kifferait grave, en fait. Il n'y a pas besoin que Arthur conduise un tramway, ou enfin, je ne sais pas comment il pourrait s'appeler, parce que ça ne rime pas. Mais voilà. Donc, pourquoi pas, effectivement, leur suggérer de sortir de ça. En tout cas, Jeanne, je partage. Je partage tes remarques. Et,
Stanley conduit un tramway. Non, pardon, ça m'a... J'ai grave cherché longtemps.
Voilà.
Mais oui,
Stanley conduit un tramway.
Bientôt sur vos tables d'édition.
Voilà.
De librairie, pardon. Mais oui, justement, j'avais jamais réalisé à quel point c'était stéréotypé. Je sais ce que je commence à lire des livres jeunesse pour mes neveux. Et en fait, c'est critique, quoi. On parle... Je me rappelle des scandales politico-médiatiques quand on... parler des abécédaires d'égalité sous Najat Vallaud-Belkacem à l'époque quand elle était ministre de l'Éducation nationale. Et il y avait une telle levée de bouclier que ça avait été quasi complètement abandonné. Et en fait, l'endoctrinement du genre et la théorie du genre, c'est des livres jeunesse ultra conservateurs qui racontent des histoires même pas très intéressantes, en fait. Genre, machine est trop bavarde ou très coquette. Enfin, ça fait pas des intrigues très très passionnantes, je pense. Et il y a d'autres trucs à raconter. Enfin... Et en même temps, c'est compliqué.
C'est ça. Mais voilà, on peut qu'espérer, et je suis sûre qu'il y a aussi des maisons d'édition jeunesse, et là j'en ai pas en tête, mais je suis certaine qu'il en existe, qui essaient de réinventer un petit peu les récits qu'on sert à nos enfants, et c'est salvateur. Donc voilà, peut-être si d'ailleurs vous qui nous écoutez, vous en connaissez, que ce soit des livres, des maisons d'édition, voilà, qui produisent ce genre d'ouvrages, n'hésitez pas à nous les recommander, et puis on les redira dans une prochaine émission. C'est l'heure des kiffs, sinon.
Attendez, je voulais faire une reco de livres jeunesse que j'ai acheté ce week-end. Le week-end avant, je sais plus.
Mais t'as un budget livre jeunesse, Antoine.
Non, mais c'est pour ça qu'il y a plus d'argent, en fait.
Ah,
c'est
oui,
que
j'achète.
Enfin, maintenant que mes neveux, ils ont dit que c'était nul chez moi parce qu'il y avait rien.
Mais
il y avait
non,
pas de
joie, c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est pas comme s'ils étaient un petit peu ingrats, tes neveux.
Ça m'a vraiment dévasté. Non, c'est pas pour ça, c'est que j'ai animé une table ronde il y a peu de temps sur la pédagogie, grosso modo, en tant que professeur. Non, je rigole. avec notamment une co-autrice de l'ouvrage collectif qui s'appelle Entrée en pédagogie antiraciste, qui est publié aux éditions Shed Publishing, les co-auteurs du livre Visible pour l'exclamation figure d'un de l'histoire de France, et aussi Hortense Ballot, qui a un super spectacle de vulgarisation historique sur les oubliés de la Révolution française, d'ailleurs. Peut-être que Fanny, tu connais, ou peut-être que ça peut t'intéresser en tant qu'historienne.
Voilà. Je suis pas historienne, mais oui, pardon, ça peut m'intéresser. J'ai trop de respect pour les historiens et historiennes pour dire que j'en suis une, quand même.
En tant que vulgarisatrice historique.
Voilà. Mais oui, voilà. Il y a des gens qui se présentent comme historiens, chercheurs,
bah oui,
sans lettres.
Je ne le suis pas. Mais merci pour la reco.
Donc Hortense Ballot, son spectacle qui s'appelle Portrait de famille, les oubliés de la Révolution française. Mais elle fait plein de trucs de vulgarisation, notamment sur les femmes sportives, les footballeuses, etc. Bref, c'est pas le sujet. Donc j'ai animé cette table ronde, c'est trop cool et tout. Et au terme de celle-ci, il y avait une table de librairie qui vendait des livres, notamment des livres de Shed Publishing et un livre jeunesse qui s'appelle Tout est si brillant de Tarek Lakrissi. Et Tarek Lakrissi, c'est un artiste contemporain que j'adore. Et je me suis dit, oh, bah, il écrit un livre jeunesse, c'est trop cool et tout. Et en fait, c'est à partir de 3 ans, c'est un petit enfant qui s'appelle Amir, qui explore un peu la vie. C'est assez poétique et ça parle de confiance en soi, d'héritage culturel arabe et des premiers pas d'une affirmation qui ne serait pas si hétéronormée, quoi. Et c'est vraiment somptueux, c'est plein de poésie. J'ai adoré et je suis pas sûre de l'offrir à mes neveux, du coup. Mais quand ils viendront chez moi, ben, au moins ils pourront le lire.
Trop bien, bah, merci pour la reco. Et puis, comme tu achètes un bouquin à tes neveux par semaine, rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine reco.
C'est clair.
Ils vont me mettre sur la paille. Ouais. Donc, les kiffs.
Voilà, c'est l'heure des kiffs. Eh bien, écoute, Fanny, est-ce que tu veux.
Oui, bah, je peux commencer. Alors,
quel est ton kiff ?
Mon kiff cette semaine, je vous parle d'une exposition qui se tient à Paris jusqu'au 12 février 2024. Donc, à l'heure où vous nous écoutez, vous avez encore à peu près 2 semaines. Pour aller la voir, parce qu'on sort le 1er février. Donc, même si l'exposition est passée, c'est pas grave, parce que le musée que je vous conseille est un endroit mais magnifique, que je ne connaissais pas. Donc, vraiment, je parlais du musée Gustave Moreau.
C'est l'un de mes musées préférés, parce que c'est un de mes peintres préférés.
Et ben, moi, je ne connaissais pas. Vraiment, en fait, moi, Gustave Moreau, je connaissais parce que, bizarrement, on partage le même nom, Moreau. Moi, vraiment, je connaissais juste pour ça.
Ah, mais j'avais pas fait le rapport.
Et ben oui, voilà, donc moi, c'était juste... j'y suis allée parce qu'ils font donc jusqu'au 12 février 2024 une exposition, Le Moyen-Âge retrouvé.
Comme c'est étonnant.
C'était pour toi. Voilà, donc j'avais vu les publicités dans le métro, comme quoi c'est utile, les publicités dans le métro.
Ah bah bien
donc
sûr.
J'avais fait, oh oui, ça a l'air chouette. Et donc j'ai profité d'un mercredi où mon amoureux était avec moi. Et donc on est allé voir. Donc Gustave Moreau, déjà une petite présentation. Ou est-ce que tu veux m'aider, Anthony? Non, oh là là, mais alors moi vraiment, je ne connaissais pas du tout. Je serais incapable de reconnaître du Gustave Moreau et tout ça. Et même maintenant, je dirais que dans le musée, il est chouette, mais je trouve qu'il manque des choses de présentation. Bref, ça c'est vraiment mon petit regard critique de scénographie. Non, pas scénographie, muséographie, c'est ça. Et donc Gustave Moreau, bah, c'est donc un peintre du 19e siècle. Oui, jusqu'à je vérifie que professeur Anthony Vincent valide ce que je dis. Si on doit décrire un petit peu l'art de Gustave Moreau, c'est quelque chose de très symbolique, beaucoup de symbolisme, beaucoup de mysticisme, beaucoup inspiré par les mythologies, par aussi l'art asiatique, notamment indien et japonais, parce qu'il collectionnait j'ai vu des estampes japonaises, et en fait, notamment, il y a beaucoup de ses peintures, et ça m'a beaucoup impressionné, en fait, où on voit effectivement comment il est inspiré par l'Inde, mais dans des tout petits détails, sachant que la veille de cette visite, j'avais enregistré un épisode sur l'Inde médiévale. Donc là, vraiment, j'avais l'impression de... Oh, mais en fait, oui, je vois le peu que j'avais écouté avec mon invité. Bref. Donc, Gustave Moreau, il fait ses peintures et tout ça. C'est très, très beau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde un petit peu sa biographie, c'est que c'était pas un méga peintre connu. Enfin, il était connu, mais il était un petit peu, j'ai l'impression, en retrait par rapport à d'autres. Il était connu dans un certain milieu et tout ça, mais même aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un des peintres les plus connus en France et tout ça. Et donc, en tout cas, moi, de ma perception, je trouve qu'il y a un peu ce côté peintre discret.
Outsider.
Peut-être pas outsider quand même, parce que bon, il était quand même dans tous les milieux parisiens et compagnie. Mais quand tu vois aujourd'hui, comme peut-être c'est une peinture justement... Alors aussi, lui, il dit qu'il voulait ne pas représenter la réalité. Donc, il est vraiment dans... des choses pour inspirer des sentiments, pour inspirer en gros la réflexion et tout ça. Donc peut-être que c'est ça aussi, peut-être que c'est un peintre qui peut-être déconcerte des gens et tout ça, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que même moi, en fait, dans certaines choses, je suis déconcertée, même si pourtant j'ai quelques références culturelles et tout ça. Bref. Donc Gustave Moreau, ok, il fait sa vie, il fait ses peintures, tatin. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc le musée Gustave Moreau, qui est, alors attention, j'ai la petite plaquette, qui est au 14 rue de la Rochefoucauld, un peu au centre de Paris, pas loin de Pigalle. Et en fait, c'est que c'est de son vivant que lui décide de créer ce musée dans ce qui était sa maison d'enfance.
C'était chez lui ?
Ouais, c'était chez lui. En fait, c'était sa maison d'enfance, donc c'est vraiment à la fin de sa vie, comme il n'avait pas eu toute une réflexion sur la mort, de quoi faire de son œuvre, qu'il s'est dit, je vais faire aménager cette maison sur plusieurs étages pour que ce soit l'exposition de toutes mes œuvres. Donc aujourd'hui, il y a plus de 10 000 œuvres qui sont là-bas. C'est énorme.
Mais ses œuvres personnelles ?
Oui, ses œuvres à lui. C'est vraiment ça. Donc en gros, au rez-de-chaussée...
Melon du mec, quoi.
Non, mais au moins, c'est pas mal. Au moins, tu vas au musée Gustave Moreau, tu vas voir du Gustave Moreau. Au moins, c'est ça. Je trouve ça aussi intéressant de se dire que c'est un musée qui a été conçu par lui-même. Parce qu'on a beaucoup de musées qui sont faits a posteriori, voilà, et tout ça. Là, c'est vraiment là où il a vécu. Parce qu'au premier étage, tu as notamment quelques pièces qui ont été reconstituées de ses appartements.
Oh, ça, j'adore.
Mais c'est tout petit.
Oh, ça, j'adore.
On a perdu Ariane.
Il y a le mobilier.
Oui, il y a du mobilier.
Ça va, la fétichiste.
J'adore les intérieurs, je vous l'ai déjà dit. J'adore regarder chez les gens.
Tu as vu la musée Tu as déjà visité la maison de Victor Hugo ?
Bien sûr.
Ah bah voilà.
Bien sûr.
Bah c'est un peu système, mais en beaucoup plus petit. Il n'y a que quelques pièces qui ont été reconstituées, donc de sa famille et tout ça. Donc c'est assez émouvant. Au deuxième et troisième étage, tu as ces peintures. Il y en a déjà au premier. Mais en fait, quand je vous dis des peintures, c'est qu'il y en a du sol au plafond. Dans toutes les pièces. C'est gigantesque, on ne sait pas où donner de la tête. Parce que vraiment, tu regardes dans tous les sens. Donc c'est assez beau. Notamment, ce musée, il est très connu parce qu'il a un magnifique escalier à vis qui relie le deuxième au troisième étage.
C'est un très très bel escalier que je ne
saurais
pas comment décrire.
Instagrammable,
attention,
on est sur... Ah, il est magnifique.
Mais je crois que je l'ai vu dans ta story ce week-end, en fait.
Alors, je l'ai vu il y a quelques semaines, mais oui, quand j'étais allée voir le musée. Donc, très très bel escalier qu'en plus, on peut emprunter parce que c'est là qu'on passe du deuxième au troisième étage.
On ne peut pas le ramener chez nous ?
Alors, non, on ne le ramène pas chez nous. Enfin, tu peux essayer. Hein. Enfin, vraiment, c'est des œuvres mais magnifiques. Donc, moi, écoute, Anthony, moi, je découvrais. Donc là, j'étais subjuguée parce que je trouve ça très, très, très beau. Le côté onirique me plaît beaucoup. Le côté... plus, voilà, moi, un de mes peintres préférés, c'est Hubert Robert. Donc, j'aime bien le côté onirique. En fait, c'est juste... voilà, je crois que j'en ai déjà parlé en plus. Mais... donc là, Gustave Moreau, on n'est pas tout à fait dans le réalisme non plus. Mais voilà, on a beaucoup de mythologie grecque. Vraiment, il y en a dans tous les sens. Si vous aimez ça, vous allez kiffer. Et donc aussi de l'art chrétien, parce que donc, c'était un personnage religieux, mais qui n'était pas pratiquant. Mais on sent comment ça transpire quand même. Donc vraiment, le musée est super. Et aussi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce musée, c'est que c'est au deuxième ou troisième étage, je ne sais plus. Il y a des panneaux qu'on peut ouvrir pour voir des dessins de Gustave Moreau. C'est ultra à l'ancienne, hein. Dit comme ça, ça a l'air d'être un truc très, très moderne. Non, c'est vraiment à l'ancienne. En fait, au début, je ne comprends pas parce qu'il y avait des panneaux contre le mur, tu vois. Enfin, c'était vraiment comme s'il y avait un panneau avec des dessins. Mais il y avait un petit tabouret. Pourquoi un petit tabouret ? Et des rideaux. Et en fait, si tu t'assois sur le tabouret, tu ouvres le rideau, mais donc tu es assis vraiment quasiment au ras du sol. Et tu peux ouvrir des panneaux, mais tu en as des cinquantaines. Et tu peux comme ça parcourir. En fait, je voyais une nana qui regardait les dessins en prenant des notes. Donc en fait, c'est ça aussi, donc c'est bigger in the inside. Donc vraiment, je pense que pour aller au musée Gustave Moreau, il faut au moins 2-3 heures minimum. Minimum, vous allez en prendre plein les yeux. Et vraiment, le côté, il y en a, quand je dis du sol au plafond, c'est que tu passes ton temps à lever la tête, à regarder
et
tout ça.
Ça me donne tellement envie. Et vous avez parlé de la maison de Victor Hugo que je n'ai jamais visitée. Je suis allée voir, j'ai vu qu'il y en avait une place des Vosges.
Okay, et l'entrée est gratuite.
À Guernsey aussi. L'entrée gratuite.
Mais
ça a l'air...
La place des Vosges, c'est gratuit. Et c'est vraiment...
incroyable.
Mais oui, c'est très, 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 très beau.
Ça a l'air dingue. Et ça,
en plus, lui aussi, il met bien Moyen-Âge,
sol au plafond,
forcément. Oui.
Comme tu le disais.
C'est ça, mais le sol au plafond, lui, c'est vraiment pour décorer à fond. Mais oui, il faut aller voir. Plus... Victor Hugo apparemment récupérait des meubles de la fin du Moyen-Âge et les refaisait avec un pote à lui qui faisait des meubles. Ça m'a fait délirer cette anecdote.
Mais non, genre do it yourself du dimanche, quoi.
Bah, c'était un petit peu ça, mais bref, ça me fait délirer. Donc Gustave Moreau, il y a tout ce côté. Le musée déjà est très très beau, allez le voir. Et donc, je vous parlais de l'exposition Le Moyen-Âge
retrouvé.
C'est
un peu de kiff en un quand même là ce que tu nous fais.
Bah, non.
Trois kiffs en un. Gustave Moreau, le musée et l'exposition.
Oui, mais ça quand même une thématique. Attends, je vais pas parler d'un podcast que j'ai découvert il y a pas longtemps que je kiffe. Bref. Donc l'exposition Le Moyen-Âge retrouvé, en gros, c'est qu'ils ont pris certaines œuvres de Gustave Moreau et montré quelles sont les influences du Moyen-Âge sur son œuvre en sortant quelques-unes et tout ça. Et c'est super intéressant, notamment quand on voit il était vraiment c'était un geek, un nerd total, mais je kiffe. C'est qu'il avait une carte à l'année pour aller à la Bibliothèque nationale de France pour aller voir des manuscrits. Et en fait, dans un carnet, il notait tous les manuscrits qu'il allait voir avec les cotes et tout ça. Donc, c'est super intéressant. Le carnet où il avait ça était présenté. Et il y avait donc certaines œuvres médiévales qui étaient présentées à côté de ses œuvres à lui. On voit comment il en a copié certaines. Et on voit comment dans ses œuvres, eh bien, on retrouve plein de thèmes médiévaux avec des anges. Voilà, bah, c'est l'époque de Victor Hugo aussi. Donc, c'est toute la redécouverte du Moyen-Âge du 19e siècle. C'est passionnant. Je kiffe. Et aussi, comment on voit, il mélange plein de choses entre les bestiaires. Notamment, il met beaucoup de licornes. Il adore ça. Et bah, forcément, les licornes, c'est chouette au Moyen-Âge. À la musée de Cluny, il y a plein de licornes. C'est très chouette. Donc, voilà comment, en fait, il mélange donc le Moyen-Âge et romantisme et tout ça. Et je kiffe. Donc, même si vous n'y connaissez rien en peinture du 19e, même si vous n'y connaissez rien en Moyen-Âge, bah, allez-y parce que juste, c'est très beau. Vraiment, bah, c'est beau, vous allez en prendre plein les yeux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il voulait faire ressentir des émotions aux gens. Et là, c'est vraiment ça. En fait, ça inspire quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi, parce que je sais, voilà. Mais vraiment, je ne peux que vous conseiller d'y aller parce que c'est beau. Et l'endroit est magnifique. Est-ce que tu as peut-être d'autres choses à ajouter, Anthony ?
Non, j'allais juste dire que si un jour j'ai un chat ou un enfant, je l'appellerai Gustave pour Gustave Flaubert, Gustave Moreau et Gustave Courbet. C'était pas du tout intéressant ni intelligent. Désolé.
Mais si. Gustave pour un chat, je trouve ça nickel.
Tu pourras le surnommer Gus. Gugus. En tout cas.
Et Gugus.
Mais voilà. C'est dans quoi qu'est Gus Gus ?
C'est dans Cendrillon.
Ah, voilà, je me disais, il y avait un Disney.
J'ai pas la ref.
Donc, ouais, donc je ne suis pas de la famille de Gustave Moreau. Pas du tout. Enfin, je pense que les Moreau, t'en as des milliards en France. Bon, quand même pas. Mais bref, on est plein. Donc, moi, c'est juste ça. En fait, même, c'était drôle parce que sur les tableaux, je me dis, ah, il écrit Moreau de cette façon, lui. C'est tout bête, hein, mais je dis, ah, mais
oh
ça, c'est
là
que
là.
Moi. Non, mais. Je dis, ah, bah, tiens, Moreau, je l'écris. J'avais pas pensé à faire le M de cette façon. Alors que c'est un mot que j'écris beaucoup. Mm. Enfin, mon nom, forcément, j'écris beaucoup. Donc, voilà, c'était juste une réflexion totalement auto-centrée. Ouais. Mais c'était un peu, ah, cousin. Voilà.
Ah,
voilà, c'était mon kiff. Et donc, le musée Gustave
ça donne
Moreau.
Trop envie. Merci beaucoup. Trop rien que plaisir. Pour le lieu, moi j'ai très envie d'aller voir le lieu en fait, déjà. Commencer par là.
Si vous n'avez pas vu la maison de Victor Hugo, donc c'est gratuit, c'est Place des Vosges, j'ai eu ça avec ma mère. Et tiens, mini reco que je passe comme ça, bah, j'ai commencé à écouter le podcast Les Nouilles Rampantes, qui existe depuis des années, hein, qui est fait notamment par Thomas.
Attends, pardon, les nouilles comme des pâtes ?
Ouais, parce que tu connais pas ce terme ? En fait, les nouilles rampantes, c'est référence au terme anglais creepypasta pour parler des histoires qui font peur, en fait.
Oh, j'adore.
Des histoires qui font peur, mais qui sont un peu des déviés de la réalité, qui vraiment te mettent mal à l'aise et tout ça. C'est fait par Boulet et Thomas Hercouet.
Genre du fantastique.
Donc des gens d'internet. Oui, bah c'est du fantastique, mais qui va dire, bah, c'est quoi cette ombre que t'as derrière toi là ?
Mais c'est pas des légendes d'internet, les creepypastas ?
Si, ouais, c'est genre, des légendes d'internet, c'est ça aussi.
Mais cette ombre que t'as derrière toi, genre du coup tu es le personnage du podcast ?
Non, mais en gros.
Des nouilles rampantes, je te disais, mais l'expression est hilarante.
Bah oui, mais c'est les légendes d'internet, c'est bah, le fait qu'apparemment il y aurait une réalité parallèle, mais qui serait que des couloirs où tu errerais en fait si tu y tombes.
Je veux écouter, ça dure longtemps par contre.
Oui, c'est, en fait, ils font ça en direct sur Twitch et après ils le mettent en replay. Mais là je suis en train d'écouter ceux de 2020, j'ai du retard, mais je suis contente, j'avais besoin d'un podcast pour m'accompagner. Alors ça fait peur. Hein. Des fois j'écoute ça le soir, je suis un peu ok, on va se mettre du drag queen.
Quelle idée,
hein.
Quelle idée.
Ça fait un petit peu peur, mais j'aime bien la façon dont ils le font. C'est plein de petites histoires comme ça. Et voilà, et j'aime beaucoup l'auteur Boulet, que j'adore suivre aussi sur Twitch et tout ça. Donc c'est vraiment les gens d'internet que j'aime bien. Voilà, plein de rocos en une. Bisous.
Bravo.
Cool. Merci pour ce kiff et ce petit kiff, mini kiff. Ariane, je te vois le coude levé, encore la prête à. Enfin, le micro déjà dégainé, même. Je sens que tu as envie de partager avec nous quelque chose.
Alors, j'ai beaucoup hésité, aussi parce que ma vie est très un roman sur le rien de cette dernière semaine, car j'ai énormément dormi vu que je suis fatiguée de la Thaïlande. Du coup, ce week-end, j'ai rien fait. Et du coup, je vais vous parler, désolée Fanny, d'un podcast.
Pourquoi désolée ? Au contraire, c'est bien.
Alors, qui existe depuis longtemps, hein. Moi, j'arrive juste, les pieds dans le plat au dernier moment. C'est un podcast de France Culture, donc encore plus connu. Oui, c'est une émission de radio, mais je l'écoute en podcast.
Donc c'est un replay.
C'est un replay,
oui, voilà,
d'émission
de radio.
C'est
pas un podcast natif, merci.
Non, mais alors merci Anthony, parce qu'à chaque fois
je déteste les gens qui disent, je rigole, je me calme.
Non, mais dites.
Non, mais un podcast natif et une émission de radio, c'est pas la même chose.
Oui, c'est vrai.
Mais Anthony, mais merci. Mais je me sens tellement seule à chaque fois que je dis ça.
Elle a podcasté un contenu. C'est ça que tu veux
voilà,
dire.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est
voilà.
Quoi le titre ? Trop de suspense.
Alors, le titre de l'émission, c'est « La culture change le monde », d'accord ? C'est sur France Culture, le vendredi de 11h à midi. Et moi, je l'écoute en replay podcast sur l'application France Culture, enfin Radio France plutôt.
Ouais, ils sont chiants avec ça.
Mais elle est aussi sur Spotify.
Oui, mais ça périme vite. Après, ça va. Allez, oui. Allez, téléchargez notre application si vous voulez écouter des trucs qui ont plus de 2 mois.
C'est vrai.
Les impôts, ça sert à quoi?
C'est vrai que c'est un peu relou.
Elle est gratuite,
c'est gratuit. Oui, oui, c'est gratuit.
Oui, mais ils pourraient les mettre sur toutes les plateformes d'écoute, je suis désolée. Enfin, c'est quoi cette, ce gatekeeping là? Hein, Radio France?
Bon. Et on se voit un mail de Radio France derrière là.
Ouais, ça va aller, ça a chauffé pour nous.
Si Radio France écoute LMK, alors ça, ouais. ça serait chouette.
On sait jamais. Hein.
On sait jamais.
Et donc, La Culture Change le Monde, chaque semaine, c'est présenté par Mathias Sénard et chaque semaine, il parle d'un film, d'un roman, d'un manifeste, d'une œuvre d'art qui a changé le monde au moment où elle a été conçue ou peut-être même après.
Donc, il y a un épisode sur FK Twigs.
Pourquoi tu dis ça?
Parce qu'elle a changé mon monde.
D'accord. Tu feras une suggestion.
Un épisode sur quoi?
À Radio France. FK Twigs.
Je connais même pas non plus.
Je t'enverrai des liens.
Ah, merci.
J'en ai trop parlé dans l'MK déjà.
D'accord, d'accord, j'ai du retard. Donc vas-y, continue, Ariane, pardon.
Et donc, dans cette émission, Mathias Sénard reçoit généralement. Alors, il faut savoir que moi, j'ai surtout écouté les épisodes où ça parle de romans, parce que je suis relou. Et du
mais
coup, généralement, il reçoit un écrivain ou une écrivaine contemporaine qui est lié de près ou de loin au roman dont on parle, et généralement un ou une historien-historienne qui est spécialiste de la période à laquelle est parue l'œuvre en question. Et donc c'est super parce que ça me donne une belle liste de romans classiques que je n'aurais pas lus, et franchement il y en a beaucoup. Et franchement,
du coup tu fais que enrichir ta pile à lire, mais
exactement, je fais que enrichir ma pile à lire. Et non,
mais
j'en ai lu. Mais oui, j'en ai lu 2 depuis que j'ai commencé à lire ce podcast, dont un qui fait 800 pages, donc forcément, voilà. Et c'est évidemment Le Nom de la Rose d'Umberto Eco.
Ah, je l'ai acheté. Il faut que je lise aussi.
Bah, bonne chance. Et du coup, depuis que j'ai commencé à écouter ce podcast, j'ai lu Mrs. Dalloway de Virginia Woolf et Le Nom de la Rose d'Umberto Eco. Et ce qui est super, c'est que j'écoute le podcast avant de lire le livre et je le réécoute en x2 par contre, parce que écouter 2 fois lentement, ça va. Je le réécoute une fois que j'ai lu le livre et vraiment je trouve que c'est super parce que quand tu l'as pas lu, il y a quand même des choses qui t'échappent, même si ça te donne une bonne contextualisation historique du moment où l'ouvrage est paru, etc. Et une fois que tu l'as lu, je trouve que ça peut te donner des clés de compréhension différentes par rapport au moment où tu l'avais pas encore ouvert. Et donc non seulement ça aborde, donc comme je l'ai dit, des romans, des œuvres d'art, des films, etc., mais en plus de ça, c'est des ouvrages et des œuvres d'art en général de plein d'horizons différents et en ce qui concerne la littérature, de plein de genres différents. Donc ça peut être de la poésie, ça peut être de la science-fiction, ça peut être des romans, ça peut être des essais. Et en ça, je trouve que c'est très riche et j'adore. Ça dure seulement 1 heure. Non mais laisse tomber, je suis crevée. Moi, je me suis pas fait poursuivre par la lave dans mes rêves, mais c'est... je sais pas ce que j'ai trop mal dormi cette nuit. Bref, ça ne vous coûtera que 1 heure de votre temps. C'est horrible de dire
c'est
ça.
C'est déjà pas mal.
Vraiment, c'est horrible de dire
ça. Non mais c'est vraiment la seule monnaie qu'on ait vraiment, quoi.
Ouais.
Mais je vais totalement m'abonner en tout cas.
Et
c'est fait, je suis abonnée.
Bah, c'est super.
Tu peux redire le nom?
C'est La Culture Change le Monde. Et moi, ce que j'écoute en particulier, c'est les romans qui ont changé le monde. Et donc voilà, c'est hyper intéressant.
Oui.
Si vous voulez, je répète, l'écouter en live, c'est du lundi au vendredi de 11h à midi sur France Culture. Et c'est vraiment superbe.
Mais j'aime beaucoup l'idée d'écouter l'émission, puis ensuite de lire le livre et de réécouter l'émission derrière.
Ouais. En fait, j'étais déjà abonnée en partie, parce que j'étais déjà abonnée au fil de les films qui ont changé le monde.
Ouais, voilà.
En fait, je savais pas que c'était deeper, encore un plus gros. Oh, trop bien, trop
bien. C'est
là
qu'ils avaient plusieurs flux. En quoi que.
Mais en fait, c'est des séries sur l'appli Radio France, c'est pour
les
ça.
Les romans qui ont changé le monde, génial.
Trop bien,
je
trop
bien. Cool. Merci beaucoup.
Ben, de rien. Je trouve que c'est chouette parce que ça aide un peu à... Enfin, j'ai des problèmes avec l'histoire, moi, Fanny, on en parlera.
Oui,
j'ai des problèmes de... Comment dire? Avec le fait de placer les événements de manière chronologique dans ma tête.
Ah, mais moi, j'aime bien ça parce que... Enfin, je comprends ce que tu veux dire et c'est pour ça que dans mes épisodes avec Passion Médiéviste, je fais gaffe à ça, de toujours dire, bah, à l'époque, il se passe quoi? Pour toujours dire, toujours resituer. Par exemple, bah, les Mayas étaient à la même époque que Charlemagne.
Ouais.
Quoi? Mais oui, j'adore ça de dire. Mais en fait,
what?
Mais oui, en fait, oui. Quand tu replaces les siècles, techniquement, ils étaient au même moment.
C'est ouf.
Voilà. Donc, mais en fait, je comprends ce que tu veux dire.
Je pensais qu'il y avait au moins un millénaire d'écart.
Mais non. Enfin, allez, après, ils ont en tout cas vécu un moment à la même époque. C'est ça qui est fou.
C'est dingue.
Peut-être que c'est que moi, mais j'ai quand même l'impression que comme on nous apprend les choses de manière très morcelée, et parfois on revient, et après on refait un bond, etc. À l'école, je veux dire. Moi, j'ai énormément de mal à replacer les choses de manière chronologique. Et par exemple, Umberto Eco, Le nom de la rose, moi, j'étais persuadée que c'était un truc, que c'était un manuscrit du Moyen-Âge. Hein. Enfin, vraiment, j'étais complètement à côté de la blague. C'est sorti en 1970 ou 80, je sais pas.
Oui.
Vraiment à l'ouest. Du coup, et entre parenthèses, vous le savez, j'ai fait des études de lettres et j'adorais que les profs me parlent. Ah bon ? Non, sans déconner. J'adorais, moi, lire les livres en même temps que les profs contextualisent, parlent de la vie de l'auteur, parlent de... expliquent pourquoi est-ce que telle ou telle chose se passe comme ça dans le roman. Et du coup, c'est quelque chose qui me manque maintenant quand je lis. Donc, le fait qu'avec cette émission, j'ai un peu une liste de romans que je pourrais lire et qui sont fondateurs, importants, etc., avec des gens qui m'en parlent et qui m'expliquent des choses que potentiellement je n'aurais pas comprises ou à côté desquelles je serais passée, je trouve ça très enthousiasmant.
Mais c'est un peu, tu sais, comme au collège ou au lycée quand t'achetais le livre qu'il fallait lire avec les explications avant ou après.
Ouais, exactement.
Moi, j'avoue que de temps en temps, en fonction des livres que je veux relire, ça m'arrive de les acheter, ces petits bouquins, parce qu'en plus, ils coûtent souvent moins cher, curieusement, que la version classique poche. Parfois c'est même genre 2-3 euros et t'as quelques petites pages
Bien,
qui te
permettent
d'avoir un peu d'analyse. C'est trop chouette.
Je comprends pas pourquoi on le fait pas.
Ouais.
Et il y a des pour Umberto Eco et Le nom de la rose, il y a quand même un dossier avant, après, etc. Mais en tout cas dans l'édition que j'ai. Mais par exemple, il y a aucune note au sein du texte même, alors que il y a des full on passages, parfois plusieurs lignes en latin. Il n'y a aucune traduction, aucune contextualisation. Du coup, c'est un peu... Bon,
donc, fais quoi ? Tu tapes, tu vas chercher sur Internet la traduction ?
Ah non, attends, tu rigoles. Moi, je saute. Hein.
Tu sautes
bah, oui. Bah oui.
De toute façon, si ça n'a pas été traduit, pour moi, c'est pour une raison. Ça veut dire que c'est fait exprès. On n'est pas censé être latiniste fluent. Hein, donc,
Je te conseille du coup aussi sur France Culture l'émission Le cours de l'histoire, qui est le matin. En fait, ce que j'aime bien, c'est que chaque semaine, ils font une série. Et en général, ce qui est plutôt chouette, c'est qu'ils prennent un sujet en 4 ou 5 épisodes. Mmh. Et en général, ils font sur l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Donc, il est animé par Xavier Mauduit. Et moi, j'aime bien ça aussi, c'est que je trouve ça cool de se montrer qu'un sujet, en fait, est sur toutes les époques. Mmh. Donc, ça pourrait peut-être t'aider aussi d'écouter certaines séries, de voir en fait comment les sujets évoluent. Notamment, ils avaient fait là des épisodes il n'y a pas longtemps sur la nourriture ou alors sur les forêts. Donc, c'est moins historique, historico. Ouais. Mais c'est intéressant de voir comment l'homme s'est approprié tel ou tel sujet au fil et à mesure des siècles. Bref, j'aime beaucoup.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Si. Trop bien.
Continuons sur notre belle lancée de kiff, Anthony. Quel est ton kiff cette semaine ?
Je suis très embêté parce que j'hésitais entre plusieurs kiffs, dont la série documentaire sur France Culture, parce que elles ont fait des séries documentaires incroyables, une sur le féminisme espagnol et
ça elle. Donc la série documentaire, c'est ça ?
Ouais. Oui.
D'accord. Dis lentement, je prends des notes. C'est
les productrices de la série documentaire sur les féminismes en Espagne. Et l'autre sur les masculinités et le masculinisme, quoi. Donc c'est hyper intéressant, allez-y, écoutez. Je voulais aussi faire un kiff sur le pole dance, mais apparemment on parle trop de sport, donc j'ai parlé d'autre chose.
J'ai vu les performances de pole dance vendredi soir, c'était incroyable.
Pourquoi
c'était
on parle trop de sport ?
Vas-y, balance les noms.
Non, mais c'était au Morphine Follies, toujours ma Morphine Blaze adorée. C'était au Velvet Moon à Montreuil, et la meuf qui a fait du pole dance, elle s'appelle, son nom de scène, c'est Barbara Love. C'était incroyable. Bref.
Ok, je vais bien regarder. Merci beaucoup.
Tu peux la refaire, c'était incroyable.
Comment ça ? J'ai parlé vite.
Tu te réécouteras. Non, mais.
Non, en fait, elle aime quand tu dis incroyable. Moi, j'aime beaucoup aussi quand Anthony dit incroyable. La semaine dernière, tu l'as beaucoup dit.
Ah bon ?
J'adorais. Genre, quand tu dis incroyable, quand tu mets la tête en arrière en disant ça, j'adore.
Je me rendais pas compte. Et du coup, donc trop de sport, donc je ne parlerai pas non plus de ma première fois en boxe anglaise, où je me suis pris des points plein la gueule. Ça a été transformateur,
oh non.
Mais positivement. Ni du podcast Les Pré-Critiques de Mediapart, qui est en fait extraordinaire. Et donc, Ariane, si tu en manques de gens qui contextualisent des œuvres
ouais.
et qui critiquent, la vraie critique culturelle, vraiment, c'est très appréciable. Quand
ça s'appelle
c'est
comment
fait.
Tu peux redire
L'Esprit Critique.
Ah,
de
oui.
J'allais dire, c'est incroyable.
Voilà. Bon, alors c'est quoi
non, c'est vraiment très pertinent, très intéressant. Mais du coup, ce sera un petit peu historique, un petit peu culturel, mais pas trop, un peu lol, un peu intello. Ce sera Hortense Bellot, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est un peu compliqué à caser comme kiff, mais donc récemment, comme je vous le disais plus tôt dans l'épisode, j'ai animé une rencontre sur la pédagogie, sur la vulgarisation, etc. Donc, c'était vraiment passionnant. Et pour la préparer, j'avais notamment regardé Portrait de famille, Les oubliés de la Révolution française, qui est une conférence spectaculaire de Hortense Bellot. Hortense Bellot, c'est une artiste pluridisciplinaire, en tout cas surtout conférencière. C'est assez bizarre de parler d'une conférence comme une œuvre d'art, mais en l'occurrence, c'est ce qu'elle fait. Parce qu'elle a aussi une formation de historienne de l'art, donc en tout cas un master 2 en histoire de l'art. Et
on peut dire qu'elle est historienne de l'art, hein, c'est bon. Hein.
Je pense aussi. Et aussi, elle a donné des cours, du coup, d'histoire de l'art, et elle a aussi une formation de comédienne. Et donc, elle mélange tous ses savoir-faire là pour vulgariser plein de choses culturelles de manière complètement passionnante. J'ai dit culturelle, mais c'est aussi... la culture, en fait, c'est tout ce qui nous façonne. Donc, tout ce qui crée du langage, je pense. Mais pour vous la faire courte, moi, j'ai vu que Portrait de famille, mais c'était tellement hilarant et intelligent et accessible et déroutant tout en étant enrichissant d'un point de vue historique. Ça nous fait réviser plein de choses qu'on a peut-être apprises à l'école et qu'on a oubliées depuis. Eh bien, c'est très compliqué à décrire. En gros, c'est une espèce de seule en scène. Je vous parle de Portrait de famille en premier. C'est une espèce de seule en scène d'Hortense Bellot qui se trouve sur scène, donc évidemment, comme son nom l'indique, devant un écran géant qui projette parfois des choses abracadabrantesques. Elle commence par raconter son arbre généalogique qu'elle essaye de remonter jusqu'à la Révolution française. Elle n'y parvient pas et du coup elle s'invente des aïeux célèbres, plus ou moins, ou justement le contraire de célèbres, qui ont été complètement effacés par l'histoire, ou on les a pas retenus en tout cas. Donc ça va être parce que femme, ça va être parce que racisé, parce que queer, etc. Et parfois des personnes à l'intersection de plusieurs formes d'oppression à la fois. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que tout à l'heure, Fanny, tu disais que t'aimes bien donner des repères de gens, de phénomènes qui sont contemporains à travers le monde. Eh bien, elle, c'est un petit peu ce qu'elle fait, où en fait, elle va vous prendre la seule survivante des enfants de Marie-Antoinette, qui s'appelle Marie-Thérèse, je crois. Je suis nulle en histoire, justement. Et elle la contextualise par rapport à un autre enfant adopté par Marie-Antoinette, qui est un enfant noir qu'on a complètement oublié ou qu'on n'a jamais appris, Zamor, je crois. J'aurais dû prendre mon carnet de notes. Et elle le fait tout ça en même temps avec plein de trucs, mais random. Mais tout est random, c'est chaotique. Et en même temps, ça vous fait plein de moyens mémotechniques pour vous en souvenir. Parce qu'en fait, elle va vous dire « Ah oui, ça aurait pu être mon aïeul » ou je sais pas quoi. Et elle raconte des trucs. À chaque fois, c'est par deux, en fait. Donc, elle va vous placer aussi le chevalier démon. Je sais pas si vous connaissez l'histoire du chevalier démon. Donc, Fanny, je pense. Oui, non.
Mais pas moi.
Ariane aussi, peut-être, en tant que personne queer.
Exactement.
Et en gros, si vous n'avez pas la ref, si vous connaissez Mylène Farmer cite le chevalier démon.
C'est ça, c'est Paloma qui en a parlé il y a pas longtemps dans son podcast absolument fabuleux. Ah. C'est pour ça, ils en ont fait tout un truc.
C'est qui Paloma?
Paloma Moritz. Ah,
Paloma
Moritz. Ah, non.
Paloma la drague.
Pardon, excusez-moi.
Pardon.
Paloma Moritz.
Quelqu'un peut me recontextualiser, moi, parce que j'ai pas la ref.
Chevalier démon, c'est une personne qu'on qualifierait sans doute aujourd'hui avec nos termes actuels de trans, en fait, une personne trans. Une femme trans qui était une grande chevaleresse. Et voilà, qui est devenue une espèce de nonne à un moment dans sa vie. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, elle a une vie complètement folle. Enfin. Elle s'est battue la première moitié de sa vie comme étant assignée à un homme. Et ensuite, elle a transitionné. Et elle a une espèce d'ordonnance qui l'a obligée à rester... Enfin, qui a changé son état civil, en fait. Et donc, elle a continué à être une femme socialement la seconde moitié de sa vie. Et un jour, elle s'est battue avec le chevalier de Saint-Georges. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non, en fait, mais je crois que il me semblait que c'était un des derniers duels. En fait, c'était une grande duelliste, en fait.
Oui.
Elle était connue comme grande duelliste et
escrimeuse,
tout ça.
Escrimeuse, fleurettiste, tout ce que tu veux. Et donc, extrêmement douée. Et un jour, elle s'est battue avec le chevalier de Saint-Georges, qui est un champion d'escrime aussi de son époque, mais qui est aussi un immense compositeur qui a failli avoir la direction de l'Opéra de Paris de l'époque, grosso modo, pour le dire vulgairement, et c'était un homme noir qui était le répétiteur, l'enseignant, le prof de musique de Marie-Antoinette. Et bref, personnage incroyable qu'on a assez peu retenu en France et à qui les États-Unis viennent de lui faire un biopic, alors que c'était un Français. Bref,
c'est
la France.
Ouf.
Et c'est pas lui d'ailleurs qui a dit qu'il voulait pas tuer le chevalier d'Eon parce qu'il dit mais si jamais je vous tue, il n'y aura plus jamais quelqu'un à ma mesure. Il me semble qu'il y a un truc comme
je
ça.
Je sais pas. Je
genre
sais
hyper,
pas.
Voilà. Il me semble que c'est ça. Mais,
bref, chevalier de Saint-Georges, il faisait des trucs incroyables, genre un opéra queer et racisé à l'époque, quoi. Enfin. Et bref, donc Hortense vous dresse le portrait de plein de figures historiques qui ont réellement existé, mais qu'on connaît pas forcément parce que l'histoire ne nous l'apprend pas, enfin l'histoire telle qu'on l'enseigne à l'école. Et
parce que les profs n'ont pas le temps
oui,
d'enseigner tout ça.
Évidemment.
Et que les programmes se changent tous les deux ans. Mais oui, on est d'accord. Quoi,
non, mais j'incrimine pas les profs. C'est juste qu'il y a plein de personnages complètement fous et qui ont l'air bigger than life et qui ont vraiment existé. Quoi. Enfin, c'est Chevalier d'Eon, Chevalier de Saint-Georges et tout. C'est... On le surnomme un peu abusivement le Mozart noir. Tellement c'était un prodige de la musique. Quoi. Et voilà, donc plein de figures comme ça qu'elle raconte et tout en donnant plein de références de la culture populaire d'aujourd'hui, notamment Mylène Farmer, Céline Dion et plein de trucs marrants, et en chantant un karaoké en même temps, et en même temps elle change de costume 36 fois sur scène pour des trucs complètement loufoques à chaque fois. À un moment elle se met sur un coq gonflable comme si elle chevauchait un coq. Bref, c'est hilarant et ça a fait plein de moyens mnémotechniques, enfin je sais pas comment dire, je dis moyens mnémotechniques depuis tout à l'heure, mais en tout cas ça fait plein d'ancrages qui vont vous rester en tête, que vous ayez une mémoire plutôt auditive ou visuelle. Moi, c'est plutôt auditif. Du coup, je me rappelle des musiques qu'elle cite en fonction de chaque personne. J'ai dit personnage depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment des personnalités historiques. Hein. Enfin, c'est pas des fictions. Et du coup, moi, j'ai retenu les musiques qui correspondent à chaque personnage, mais pas forcément le costume qu'elle portait à chaque fois. Et bref, c'est hyper drôle, parce que c'est un peu comme, c'est entre le stand-up et le cours d'histoire, qui ne serait jamais magistral. C'est jamais vertical. C'est toujours dans l'échange et tout. Et donc c'est vraiment fun, et elle fait plein de trucs comme ça, de formes hybrides, notamment là, en ce moment, au Musée d'Orsay, si vous vivez à Paris, vous avez peut-être même vu sa tête dans le métro, parce qu'elle est à l'affiche de la programmation, d'une partie de la programmation du Musée d'Orsay. Et en fait, elle fait une espèce d'escape game dans le Musée d'Orsay, en ce moment, avec des visiteurs et visiteuses, enfin, en tout cas des gens qui ont acheté des billets pour voir son show, sa conférence spectaculaire. Donc c'est du théâtre immersif, en gros. Et elle fait plein de trucs, mais enfin inclassables. Donc, et c'est tellement inclassable que c'est très compliqué de vous dire allez voir tel show ou tel show parce que c'est partout et. Enfin, pardon. Ça joue en région à plein de moments. Et il y a aussi des dates à Paris, évidemment. Et du coup, le meilleur moyen de se tenir au courant et d'aller voir un truc qui passe pas loin de chez vous, c'est d'aller sur son site, en fait, Hortense Belhaute, B-E-L-H-O-T-E, pour voir ses conférences spectaculaires sur plein de sujets différents. Donc, il y a une histoire du football féminin. Histoire des graffeuses, histoire de performereuses, donc les artistes contemporaines qui font de la performance, des trucs. Comme je vous le disais plus tôt, portrait de famille sur la Révolution française. Et voilà, et c'est hyper intéressant. Et les dates sont pas très linéaires, donc vraiment le meilleur moyen de se tenir au courant, c'est son site ou son Instagram. Même son site, c'est mieux en fait, parce que son Instagram renvoie vers son site pour trouver les dates. Et voilà. Donc ça court toute l'année 2024, vous pouvez trouver des dates. Je pense que celles qui sont disponibles en ligne, c'est plutôt celles de janvier, février, mars, avril, mai à la rigueur. Mais si ça vous intéresse, il y a d'autres choses à aller voir. Et c'est vraiment très drôle, j'ai pas assez insisté là-dessus, mais elle est vraiment hilarante. Quoi.
Donc la conférence, c'est que si on va la voir en spectacle, on peut la voir, elle est pas disponible en ligne.
Alors non, mais il y a un autre truc d'elle qui est disponible en ligne, que tu connais peut-être, Marie-Stéphanie d'ailleurs, c'est « Merci de ne pas toucher ». Qui est une série qu'elle faisait sur Arte.
C'est ce que j'allais te dire. Moi, je l'ai connue via cette série-là, qu'elle a dû débuter genre en... J'essayais de retrouver la date, mais j'ai pas réussi.
2022,
mais...
je pense, un truc comme ça.
Mais même avant, je crois. Parce que j'avais vu la toute première vidéo. Il me semble que c'était genre fin 2021, un truc comme ça. Enfin, dans ma tête, c'était post-Covid, mais proche. Mais, et effectivement, c'est hyper cool où elle... parle des dessous d'une œuvre d'art.
C'est ça, c'est de la vulgarisation d'histoire de l'art. Hein. Et du coup, c'est vraiment très très bien écrit. C'est des petites bastilles de 4 à 6 minutes produites avec Arte qui sont vraiment très très fun, divertissantes et pleines d'enseignements sur des œuvres d'art plus ou moins connues, avec toujours un prisme plutôt féministe. Et c'est vraiment très chouette, disponible gratuitement sur le site d'Arte. Et si vous cherchez le lien, bah, Il est en description de cet épisode, mais aussi sur le Instagram de Hortense Bellot, qui est comme son nom, en fait. Et voilà, donc c'est dans le lien dans sa bio, il y a son site internet et directement le lien des replays de Merci de ne pas toucher, sa mini-série sur l'histoire de l'art faite avec Arte.
Trop bien.
Oh, trop bien, merci beaucoup, je ne la connaissais pas du tout.
Mais ce genre de personne couteau suisse, enfin c'est même pas couteau suisse, c'est juste, elle a une diversité de talents.
Ouais.
C'est assez impressionnant, je trouve.
Je ne vous dirai pas son âge, mais c'est complexant.
Bah, trop bien. Merci beaucoup, Anthony. C'était vraiment très chouette. Ça m'a donné envie de retourner voir ces petites vidéos sur les œuvres d'art, sur Arte.
Moi aussi, parce que je crois que je ne les ai pas tous vues. Toutes ces pastilles, je ne les ai pas toutes vues. Et là, je vais courir voir s'il reste des places pour le musée d'Orsay, son escape game dans le musée d'Orsay, parce que ça a l'air incroyable.
Non, mais grave. Ça a l'air trop chouette. Enfin,
je crois que c'est un escape game sur le 19e, d'ailleurs.
Ah, stylé.
Trop chouette.
Et je rappelle encore une fois qu'il y a des dates en région sur ces conférences spectaculaires.
Partout en France.
Ouais.
Partout en France.
Trop bien. Donc via son site internet, comme tu disais, qu'on peut trouver sur son Insta ou en tapant juste son nom dans Google même.
Ouais, tout simplement.
Ça marche. Trop cool.
Et toi, Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff cette semaine?
Eh bien, écoute, mon kiff, vous allez être étonnés, mais c'est un livre.
Mais non.
Oh my god.
Révolutionnaire.
Voilà, c'est absolument révolutionnaire. Alors, vous le savez sans doute, c'est la rentrée littéraire, puisque oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Évidemment,
c'est comme la Fashion Week. C'est
quand on pense à la rentrée littéraire, on pense plutôt à la rentrée du mois de septembre, mais il y a une autre rentrée littéraire au mois de janvier, la rentrée d'hiver, avec en général un peu moins de livres qui sont publiés, mais ça dépend des années. Parfois, il y a des très bons crus. Et cette année, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses très chouettes qui donnent envie d'être lues, puisque je n'ai pas encore lu tout ce que j'avais envie de lire. Mais j'ai commencé sur ma pile à lire. En haut de ma pile à lire, j'avais mis un livre qui a été publié aux éditions Sabine Westpizer. J'espère que je prononce bien. Auquel cas, navré. Et c'est un roman de Tiffany Tavernier qui s'intitule « En vérité, Alice ». Alors, Tiffany Tavernier, moi, je ne la connaissais pas. C'est une autrice qui a déjà écrit une dizaine de romans, il me semble, dont un qui a obtenu un prix en 99. Donc, c'était « Dans la nuit, aussi le ciel », qui a obtenu le prix Gabriel Destré. Elle a écrit pas mal d'autres romans aussi, comme Roissy, qui est un portrait de femme qui a été publié en 2018, qui a aussi été sélectionné pour un prix, le prix Femina 2018. Et donc ce livre, En vérité Alice, il est un peu spécial, il n'est pas particulièrement joyeux, hein, je préviens, voilà, j'essaierai de revenir
c'est
avec des recommandations.
C'est le retour des kiffs déprimants. De
c'est ça. Mais il s'inscrit dans une... Enfin, il y a plusieurs livres qui ont été publiés sur le sujet dans cette rentrée d'hiver. Le second, dont je ne vous parlerai pas, mais je l'évoquerai quand même rapidement, parce que je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas encore tout à fait en parler. Mais il parle d'emprise, ce livre.
Ah, sympa.
Et là, je le montre comme si vous, les auditeuristes, vous étiez là.
Je suis
et
à
vous...
l'école. Tu veux le faire passer dans les rangs?
Je vais le faire passer dans les rangs.
Merci.
C'est un livre sur l'emprise. En fait, c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Alice. Elle a 29 ans et elle vit, voilà, elle s'installe à Paris après avoir passé 10 ans pendant son enfance à l'étranger. Et en fait, donc cette Alice qui a 29 ans vit sous l'emprise d'un homme avec lequel elle est depuis plusieurs années, je ne sais plus combien exactement. Un homme qui est violent non seulement verbalement, mais qui est violent physiquement. Et en fait, on comprend tout de suite en entrant dans le récit que Alice a été complètement isolée de tout son entourage, donc de sa famille, de sa mère, si tu veux le voir, vas-y, je vais le passer dans les rangs. Elle a été isolée de sa mère, elle a été isolée de sa sœur, elle a été isolée également de ses amis, par cet homme qui, on le comprend, a mis en place tout un système, tout un mécanisme d'emprise pour faire en sorte que elle lui soit complètement dévouée et qu'elle ait plus de contact, on va dire, avec le monde extérieur. D'ailleurs, elle bosse pas, elle travaille pas, et c'est lui qui l'a décidé, le fait qu'elle ne travaille pas. Et le roman commence, donc ça alterne entre des moments où c'est plutôt un monologue, donc c'est elle qui parle, on est dans sa tête, des moments, alors c'est là où c'est un peu spécial, où on a l'histoire de saints. Donc des saints de la Bible. Pourquoi ? Parce que on le comprend dès le début du roman. Son compagnon lui dit va falloir que tu travailles. En gros, va falloir que tu travailles. À chaque fois, enfin, il la fait culpabiliser pour mille et une raisons, et donc elle se dit ok, bah, je suis bonne à rien. C'est ce qu'elle se dit d'elle-même. Mais je vais aller trouver du travail. Et en fait, en l'espace de 24 heures, elle trouve du travail dans ce qu'on appelle le bureau des saints. Donc c'est un bureau qui existe vraiment, puisque du coup Tiffany Tavernier documente quelque chose de réel. C'est le bureau qui décide aujourd'hui va être candidat, qui peut être candidat à la canonisation. Donc des gens qui sont vivants ou qui sont décédés, mais qui étaient encore vivants il y a quelques années, et qui peuvent prétendre à devenir des saints. Et en fait, elle se fait recruter dans ce bureau. Elle rencontre des personnes hyper bienveillantes autour d'elle qui, progressivement dans l'histoire, et je ne vais pas vous spoiler, mais vont l'aider à sortir de ce mécanisme d'emprise, parce que la particularité, c'est que, et c'était une volonté aussi de la part de l'autrice, c'est que Alice, elle est dans cette relation d'emprise, mais elle en est heureuse. En fait, elle ne se rend pas compte que ce qu'elle vit, c'est de la violence. Pour elle, ce qu'elle vit, c'est la plus belle histoire d'amour de toute sa vie. Et on comprend très rapidement comment elle a pu en arriver là. C'est parce que le mec avec lequel elle est alterne entre les moments où il la rabaisse, les moments où il la violente, et les moments où il lui dit « t'es la plus belle personne sur cette terre, t'es une princesse, je t'aime, enfin, qu'est-ce que je ferais sans toi ?» Et donc c'est constamment cette situation là entre la violence, les paroles douces et gentilles, et puis petit à petit aussi on se rend compte que en fait il lui ment, qu'il a un peu une double vie, mais c'est très réaliste. Alors j'ai pas connu de situation d'emprise moi-même et par chance dans ma vie, mais on se rend compte au fil du récit que c'est une situation qui en fait peut être totalement commune, qui peut toucher des personnes de notre entourage sans forcément qu'on se rende compte, parce que Alice aussi dit aux personnes qui l'entourent « Non, mais tout se passe super bien, c'est un homme génial, incroyable, je suis hyper amoureuse. » Mais de l'autre côté, ça se voit aussi. Enfin, la violence commence à se voir aussi sur ses relations sociales, puisque ses collègues du coup de ce bureau voient qu'elle est complètement coupée du monde. Elle se rend bien compte aussi que parfois, elle reçoit des coups de fil un peu agressifs de sa part, qu'elle doit faire des trucs hyper chelous pour lui prouver qu'elle est bien à tel endroit, à tel moment. Par exemple, chaque fois qu'elle part du boulot, elle doit envoyer un selfie d'elle à un endroit bien précis, à une heure bien précise, pour montrer qu'elle est en train de rentrer. Oh. Et c'est des choses comme ça. Et donc, c'est pas forcément extrêmement joyeux comme roman, mais l'écriture est vraiment, le livre est vraiment très bien écrit. Il y a un petit côté culture G aussi, de comprendre un petit peu comment fonctionne ce fameux bureau des saints, et aussi un côté un petit peu joyeux, parce que aux côtés d'Alice, on se rend compte progressivement que il y a une voie de sortie à tout ça, et qu'elle n'est pas condamnée à être à rester dans cette relation d'emprise, et que c'est grâce aussi aux gens qu'elle va rencontrer qu'elle va pouvoir changer ce regard sur elle-même et ce regard sur sa relation. Et donc il y a aussi un petit message d'espoir, de même dans ce type là de relations vraiment très où l'emprise est vraiment très poussée, à tel point que la principale intéressée ne se rend même pas compte qu'elle vit des situations de violence. Et malgré tout, on peut quand même s'en sortir et trouver la lumière au bout du chemin, j'ai envie de dire. C'est un roman, donc c'est pas du tout tiré d'une histoire vraie. Ça me fait penser aussi à ce livre que j'ai pas encore lu, mais qui est un des livres de cette rentrée littéraire, qui est un roman sur l'emprise et la libération aussi de l'emprise, qui est tiré d'une histoire vraie, celle de Léontine Bagel. Bagel. Alors, je suis vraiment navrée si je prononce mal le nom de famille. N'hésitez pas à me corriger. Et peut-être, Léontine, si tu nous écoutes, n'hésite pas à me corriger toi-même. Mais voilà, donc qui est le récit aussi d'un parcours assez similaire à celui qui est raconté dans En vérité, Alice. Donc voilà, ça peut être une thématique si c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas, ça permet de mieux comprendre les rouages de l'emprise, et voilà. Et puis comme je le disais, c'est très bien écrit, et puis avec cette petite note d'espoir au fil du livre, je vous le recommande. Et du coup, je vous recommande de poursuivre comme je vais le faire cette semaine sur 5 petites tristesses, et puis on pourra s'en reparler si vous l'avez lu, et je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé.
Trop bien.
Un bon week-end en perspective.
Ouais, bah, voilà. Merci beaucoup.
J'ai vraiment niqué l'ambiance.
non.
Clairement. Mais je ne vais pas vous laisser sur cette ambiance morose, puisque j'ai quand même un mini-kiff.
Ah.
Voilà, pour vous. Mon mini-kiff, c'est donc un compte Instagram que peut-être vous avez vu passer. C'est un mec qui fait des vidéos sur Insta. Il s'appelle Mogiz. Vous voyez qui c'est ?
Pas du tout. Attends,
vous voyez pas ? C'est un truc de dingue. M-O-G-U-I-Z. C'est un truc de fou, parce que je pense que quand j'ai commencé à le suivre il y a quelques semaines... Il avait genre 200 000 followers, un truc comme ça, ce qui est déjà énorme en soi. Et là, il en a quasiment 600 000. Et en fait, il est très drôle parce que il publie des petites vidéos assez courtes de personnages un peu comment
c'est
comment
un acteur
un peu stéréotypé.
C'est
ouais,
un comédien.
C'est un comédien, personnage un peu stéréotypé, mais de gens qu'on peut croiser. C'est genre ta collègue qui met trop d'ail dans sa salade, ou je sais pas. Alors à chaque fois, c'est des POV. Hein. POV, tu veux louer un appartement à Paris, et c'est genre un appart de 2 mètres carrés. Enfin, je vais très mal décrire en vous le disant comme ça. Allez voir son compte.
Ça va, il est pas sexiste, c'est bon?
Non.
Parce que des fois, on tombe sur des comptes comme ça, donc c'est dans l'humour, mais en fait, tu vois, c'est tous les clichés sexistes sur les meufs, des fois, ça me
saoule.
Non,
alors, il joue un peu sur certains clichés,
okay, oui,
mais pas, en
va.
Tout cas, c'est pas, c'est pas sexiste, et je pense que s'il joue sur certains clichés, c'est volontaire aussi.
Bon, d'accord,
ouais. Satirique, on va dire.
Je connais pas, mais j'ai l'impression qu'il porte quand même souvent des perruques. Du coup, je me demande s'il fait plus de personnages féminins que de personnages masculins.
Bonne question.
Et j'ai peur.
Eh bien, écoute, tu iras voir et tu me.
C'est plus sexiste.
Et tu me diras. Non, franchement, non, en vrai, je pense qu'il fait peut-être beaucoup de personnages féminins, mais après, il fait pas un personnage par vidéo. Donc, si là, sur la couverture de la vidéo, tu vois des cheveux longs, potentiellement qu'il y a un deuxième ou un troisième personnage dedans qui n'est pas une femme. Mais voilà, en tout cas, moi, il me fait mourir de rire. Et voilà, il publie vraiment beaucoup de vidéos. Je pense qu'il doit en publier genre 3 ou 4 par jour.
Oh,
donc tous les soirs, c'est un petit régal. Ouais, c'est un petit régal.
La productivité du
jeu. Je me marre en regardant ses vidéos. Et voilà, et ça me permet d'oublier ce qui se passe dans le monde.
Oh bien. Oh mon Dieu. Quelle conclusion. Quelle conclusion, quoi.
J'avoue. Bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois.
Merci
pour cet
beaucoup.
Épisode.
Merci.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très vite.
Et lâchez-nous des commentaires, s'il vous plaît.
Et lâchez-nous des
commentaires.
Mais oui, grave, s'il vous plaît.
Et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify,
oui.
D'ailleurs.
Et mettez des commentaires sur Spotify,
ouais,
sur Apple Podcast, sur, si vous avez un Android, vous avez Podcast Addict, qui est une chouette application indépendante créée par un Français. Voilà. Donc, vous pouvez mettre des commentaires. Et je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, en plus.
Ouais, parce qu'en effet, nous, on est ravis de recevoir vos messages sur Instagram. Mais c'est vrai que, voilà, pour donner de la visibilité à LMK, et c'est sûr que vous voulez donner de la visibilité à LMK, n'hésitez pas à aller mettre des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute.
Oui, je vois, il n'y a pas eu de commentaires sur Apple Podcast depuis novembre. Les gens.
Novembre.
Les
quand
gens,
même.
Réveillez-vous. Mais oui, dites-nous vos kiffs.
Voilà. Bien. Eh bien, voilà, merci d'avance. À très bientôt.
Oui, à bientôt.
Bisous, LMK.
Salut.